Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Beaucoup de sujets à visiter, à traiter, à soupeser, à analyser, à commenter cette semaine avec notre panel expert qui est réuni en studio, les deux Fred, Frédéric Lapointe. Vous êtes président du Mouvement national des Québécois.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez un excellent veston aujourd'hui. Ça vous, c'est votre
de la bonne couleur.
Votre veston présidentiel. Et Frédéric Bérard, avocat, auteur, essayiste et grand défenseur de la disposition de dérogation de la Constitution.
Oui, exactement. Vous avez bien compris. Oui. C'est ma couleur favorite.
Ça, c'est votre manteau de défenseur de la clause dérogatoire.
C'est en plein ça. C'est le noir.
Oui, voilà. Ah, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On y reviendra sans doute. Merci d'être là, tous les deux. Alors, on commence aujourd'hui l'émission avec quelqu'un qui s'est fait remarquer cette semaine, un peu comme le concept d'origine de « Tout le monde en parle hein. ». Quand vous faites parler de vous, vous faites de l'éclat, du bruit dans les médias, on vous invite. Eh bien, c'est Jean-François Lisée qui a fait parler de lui cette semaine à propos du chemin Roxham. Monsieur Lisée, l'ex-chef du Parti québécois, chroniqueur notamment au journal Le Devoir, a fait une proposition à l'émission Les Mordus de politique à Radio-Canada, ou à RDI, devrais-je dire, concernant Roxham. Elle est à peu près comme suit. Jean-François Lisée dit « Il y a beaucoup de monde, c'est un problème qui ne se règle pas, c'est une charge très importante pour le Québec, cet afflux de migrants qui passe par Roxham. Prenons-en une proportion qui coïncide ou qui concorde avec notre proportion de la population canadienne, c'est-à-dire environ 20 % parmi lesquels privilégions les francophones, ceux qui ont de la famille au Québec, et ainsi de suite. Et les autres, redirigeons-les vers Ottawa pour qu'Ottawa se charge de les répartir à travers le Canada, pour que tout le monde fasse sa part dans ce dossier-là, puisque, évidemment, la prémisse de ce que dit M. Lisée, c'est qu'il y a une partie importante de ces migrants qui ne viennent pas spécifiquement au Québec par le chemin Roxham. Ils ont voulu venir au Canada et Roxham étant une porte d'entrée désormais connue à travers le monde. Hein. On peut presque acheter un forfait chez les voyagistes pour le chemin Roxham désormais avec passeurs et tout le truc. Mais évidemment, Jean-François Lisée a dit aussi « Mettons-les dans des autobus vers Ottawa ». Et là, évidemment, ça a rappelé à plusieurs qui sont toujours à l'affût des écarts de langage de ceux qui ne sont pas suffisamment de gauche. Ça a rappelé le gouverneur de Santis aux États-Unis et d'autres spécimens truculents comme celui-là du Trumpisme, ce qui a valu à M. Lisée beaucoup, d'abord des appuis hein, aussi, mais beaucoup de récriminations et de critiques dures sur les réseaux sociaux notamment. Il est avec nous. Bonjour Jean-François Lisée.
Bonjour Nick, bonjour Fred, bonjour Fred. Très
salut.
Content d'être avec vous aujourd'hui.
C'est réciproque, je pense que je peux le dire au nom des deux Fred. Est-ce que je vous ai bien résumé et qu'avez-vous à dire d'abord là-dessus, là, le fameux mettons-les dans des autobus. Jean-François Lisée, vous vouliez faire jaser en disant ça, même si, tout le monde prend l'autobus dans sa vie, hein, c'est peut-être pas la fin du monde non plus, mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Ben, moi, je suis toujours en mode solution, puis je suis très concret dans mes solutions. Il n'était pas question de prendre l'avion ou de TGV, il n'y a pas de TGV. Et le mode de déplacement des réfugiés, c'est l'autobus. Alors, j'avais rien, il n'y avait aucun deuxième degré dans cette façon concrète de dire les choses. Maintenant,
Mais il n'y avait pas un peu de mise en marché quand même? C'est plus, ça frappe plus que de dire appelons Ottawa, jason tranquillement pour demander à ce que l'afflux soit mieux redistribué à travers le Canada, par exemple.
Bon, alors c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que si Ottawa s'en occupait vraiment, on n'aurait aucune conversation à avoir. Okay? Ottawa a pris la décision depuis 5 ans de ne pas suspendre l'accord avec les États-Unis, ce qui aurait permis de rediriger tous les demandeurs d'asile vers le poste frontière de la COL. À la COL, les douaniers auraient pris la décision d'accorder ou non l'asile. On sait parce que ce qu'on a eu depuis en termes de bilan, c'est que la moitié des demandeurs d'asile sont acceptés, la moitié sont refusés. Donc, on peut penser que si le Canada avait fait ça ou le ferait à n'importe quel moment, ça réduirait de moitié le flux. Alors, il refuse de le faire. Et puisqu'on vient d'apprendre qu'il n'y aura pas d'entente avec Biden quand il viendra au mois de mars, et que le ministre Fraser nous a même dit que ça prendrait une législation aux États-Unis avant de changer quoi que ce soit, Ça va prendre 2 ans parce que les républicains au Congrès ne votent jamais rien sur l'immigration. Alors, donc, ça veut dire qu'on est pris avec le statu quo. L'an dernier, le gouvernement québécois a demandé au gouvernement fédéral, ben, pouvez-vous, puisque de toute façon, après 6 mois, un an et demi, il y en a un grand nombre qui vont en Ontario, puis de toute façon, nous, on est surchargés, pourriez-vous simplement en amener en Ontario? Alors, ils l'ont fait en autobus. Alors, le gouvernement fédéral a loué des autobus, puis a amené en Ontario 10% des demandeurs d'asile. Et il le fait très mal, c'est-à-dire qu'il ne les fait pas au point d'entrée, il se présente dans des lieux où les demandeurs d'asile sont présents, puis il leur dit, bon, ben vous venez en Ontario. Alors, c'est vraiment... Je comprends pas pourquoi personne a dénoncé ça avant, mais en tout cas, le principe de répartir équitablement sur le pays est acquis par Ottawa. Maintenant, jusqu'à quel point le feront-ils? Alors, c'est sûr que le Québec demande qu'il fasse davantage. Alors, ma proposition, c'est de dire, bon, donnons un ultimatum à Ottawa. Disons, écoutez, faites en sorte qu'au point d'entrée, il y en ait 80% que vous ameniez ailleurs dans le pays, parce que nous, on ne peut plus en prendre. On ne peut plus. À Montréal, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de logement. Et s'ils le font très bien, s'ils ne le font pas, c'est ça le problème. Là, on discute seulement de comment faire en sorte qu'Ottawa fasse ce qu'il ne veut pas faire. Alors moi, je dis, s'ils ne veulent pas le faire, après qu'on leur a demandé, gentiment...
Alors là, c'est là que le DeSantis arrive. Là, on les envoie, on les met dans l'autobus. ils débarquent à Ottawa sans invitation, finalement.
Ben, c'est-à-dire que moi, ce que vous pouvez parler de DeSantis toute la journée si vous voulez.
Non, mais Jean-François Lisée, vous comprenez que je fais exprès là parce que je sais que c'est ça qui a beaucoup choqué une certaine.
Je comprends que vous faites exprès. Si DeSantis aime Céline Dion, je vais pas arrêter d'écouter Céline Dion. Ok. Puis on peut parler du problème de la répartition aux États-Unis des demandeurs d'asile, ce qui est un vrai problème que les démocrates dénoncent sur la frontière sud, mais je ne veux pas parler trop longtemps parce que j'ai hâte d'entendre les deux frères. Alors, juste terminer là-dessus. Donc, le problème qui est posé au Québec en ce moment, c'est comment forcer Ottawa à faire ce qu'il devrait faire sans même qu'on lui demande. Alors, je dis, ben moi, la façon que j'ai imaginée, puis je suis très intéressé à entendre d'autres propositions, mais la seule façon que je vois, c'est de dire, écoutez, on vous donne un ultimatum, faites-le. Si vous ne le faites pas, nous le ferons pour vous et nous allons indiquer à tous les passeurs vont savoir ça en 24 heures. Là. Au moment où vous arrivez à Roxham, les fédéraux vous envoient par autobus à Montréal. Hein, ils prennent tous l'autobus tout le temps, OK, à Montréal. Puis là, à Montréal, le gouvernement du Québec va vous interviewer, va garder les francophones et les gens qui ont de la famille immédiate et va vous remettre dans un autre autobus puis va vous amener à Ottawa, à Immigration Canada. Et puis, on est certain que à ce moment-là, les Ontariens vont s'en occuper très bien parce que c'est le lieu dans le monde qui reçoit le plus d'immigrants. Puis en plus, ils aimeraient en avoir 500 000 au Canada anglais par année.
Ils en veulent beaucoup, on le sait.
Bon, alors,
je passe, si vous me permettez, avec votre permission, je passe la parole au Fred. Vous savez pas encore lequel. Tiens, je vais choisir celui qui serait du genre à trouver que vous avez choisi des mots crus, des mots durs. Je parle bien sûr de Frédéric Bérard.
Et au-delà de ça...
Au-delà de ça, Frédéric Bérard. Non, mais moi, je pensais que la gauche aimait les autobus, Frédéric Bérard.
Ben moi, je pensais que Jean-François Lisée était à gauche.
Bon, ben, alors, vaste débat pour une autre émission. Mais donc, au-delà de ça, là, vous pouvez nous parler de ça si vous voulez, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait logique dans ce que vient de dire Jean-François Lisée? C'est-à-dire, à un moment donné, si Ottawa ne veut pas bouger, et on voit bien qu'Ottawa ne veut pas bouger, là, ça fait 5 ans qu'on attend supposément la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs avec Washington, et il n'arrive rien. On a renégocié l'ALENA au complet en moins de temps que ça. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne veut pas bouger à Ottawa, au fond. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de logique dans le fait de dire, bon, ben on va prendre l'initiative et nous-mêmes commencer une meilleure répartition de ce flux de migrants, finalement?
Wow, je suis pas sûr que je suis à la bonne émission pour tenir le discours que je vais tenir là, mais
ben franchement,
mais je le ferai quand même.
Vous a déjà brimé. Là.
Ah oui, moi je suis annulé, moi. comment dirais-je? Jean-François parlait de solution, puis bon, moi j'en ai une solution peut-être, qui est beaucoup plus simple, qui est celle de faire preuve d'humanisme, qui est celle d'arrêter de regarder des réfugiés comme étant de la marchandise, comme étant peut-être des comment je dirais...
Alors, vous allez dire du bétail, là.
Ben, que... Non, je n'irai pas jusque-là quand même. Là,
mais vous aimez les animaux.
Les images sont déjà
vous...
assez fortes, merci, mais des gens qui viennent profiter du système ou des gens qui, essentiellement, ne seraient pas des actifs, au final, de la société québécoise, des gens qui vont occuper d'autres logements, des gens qui vont peut-être venir sur l'assistance sociale, des gens qui n'apprendront pas le français, des gens qui, bon, on connaît le discours. Et ce discours-là...
Très brièvement, je voudrais que tu parles avec moi, pas avec des gens qui disent ce que tu dis que je ne dis pas.
Le
concept de l'émission, c'est ça. Je vais finir.
Le concept, c'est laissons finir.
Alors, et là, évidemment.
Pas vraiment.
Pas vraiment. Je me souviens pas vraiment que des deux fois que vous m'avez laissé finir, mais en tout cas, peu importe.
Ben voyons. Cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, on va le faire.
Non, mais et là, Jean-François, je ne m'adresse pas précisément à toi, si le chapeau de fête, tu le mets, mais je parle de manière générale. Le discours qui voit les réfugiés comme étant des êtres qui viennent profiter. C'est toujours du négatif. On est toujours sur la défensive. Il n'y a rien de positif quand on parle de réfugiés ou à peu près. Or, ce discours-là, il existe. On a parlé de Sentis, mais il existe à peu près partout en Europe où il y a un mouvement de populistes qui frôle l'extrême droite ou qui est d'extrême droite, par exemple, comme la Hongrie. Et là, après ça, on se dit, ah, ben, voyez, c'est la faute des immigrants. Moi, je vous dis, c'est plutôt la faute de discours haineux, de discours xénophobes, ou pour pas dire parfois de discours racistes, qui finissent par s'implanter, puis après ça, on retourne ça contre les immigrants. J'aimerais qu'on revienne...
Une chose que vous avez dit que vous ne parlez pas à Jean-François Lisée, parce que
j'ai pas traité Jean-François de racisme. Mais attends, juste pour terminer, juste pour être certain qu'on se comprenne bien. Ce que j'essaie de dire avec ça, je pense que c'est là que c'est important de bien s'entendre. Est-ce qu'on est capable de réaliser que dans le mot « réfugié », on entend quelqu'un qui se réfugie? Est-ce qu'il y a des gens qui profitent peut-être ici et là? Bien évidemment. Mais de manière générale, si vous êtes un réfugié un jour et vous avez des chances, et j'ai des chances de l'être, vous savez quoi? Parce que d'ici 2050, avec le réchauffement climatique, il y en aura 220 millions de réfugiés à travers la planète, puis ça pourrait très bien être nous. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut réamener, s'il vous plaît, les concepts d'humanisme, d'ouverture, de dire... OK, t'es pas nécessairement un profiteur,
mais
un passeur.
Mais là, vous vous répétez, vu que le temps passe, mais vous n'avez pas répondu à ma question.
Laquelle
est-elle? C'est-à-dire, est-ce que vous reconnaissez que c'est une charge, individus
Moi, je pensais avoir répondu à ça.
Jean-François nous dit, à Montréal,
on n'a plus de place dans les logements, mais il n'y en a pas bien plus à Toronto non plus, à ce que je cherche. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que si on fait preuve, justement, de cette espèce d'humanisme-là, peut-être qu'on peut arrêter avec les considérations purement logistiques, matérielles, qui sont, à mon sens, monter en épingle.
Selon vous, l'idée même de dire là, il y en a trop, ça se peut, et par conséquent, il faut essayer de trouver une solution.
Là, ben voilà. Tout le monde arrive avec ses chiffres. Le PQ, c'est 35 000, la CAQ, c'était 50 000.
Je viens de vous poser la question.
Mais il n'y a personne qui sait. Pourquoi? Parce que c'est politique.
Sujet, Fred. Pourquoi tu parles d'un autre sujet?
En ce moment,
il y en a 40 000 cette année. Il y en aura peut-être 50 000 l'an prochain, peut-être 60 000 l'année suivante. En ce moment, là, parce qu'ils sont 99 % chez nous, cette dame, Aïcha, qui est venue de Chili jusqu'à Montréal, enceinte de 8 mois, on lui a dit, écoutez, on vous donne votre chèque d'assurance sociale, trouvez un logement. Ben, voyons donc, c'est pas de l'humanisme, ça, de faire en sorte que, dans une crise du logement, on en prenne 40 000, qu'on dise à une femme enceinte.
Il y en a partout, des crises du logement. Il y en a partout, Jean-François.
Oui, mais
c'est pas à Montréal, la crise du logement.
On comprend
ben
que...
Oui, mais pourquoi est-ce qu'on concentrerait... Puis juste savoir, c'est quoi le chiffre à partir duquel tu penses que ce n'est plus humain de les accueillir alors qu'on n'a pas les infrastructures? Est-ce que c'est 60? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 100 000?
Bon, mais là, permettez-moi d'animer mon émission. Frédéric Bérard, vous dites, il n'y en aura jamais trop. De toute façon, on ne devrait même pas se poser ce genre de questions.
Il n'y en aura jamais trop, Nick. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'on peut faire passer au premier rang des considérations d'ordre humaniste.
On vous a bien entendu.
Je réponds toujours à la même chose parce que c'est ça la réponse.
Il n'y a pas de solution.
Mais il y a Frédéric Lapointe qui existe aussi, tel, comme le disait Jacques Parizeau à une autre époque. Frédéric Lapointe.
On se souvient de ça.
Oui, vous là, est-ce que vous trouvez que trop ça se peut? Est-ce qu'on a le droit de soulever des questions qui touchent à des problèmes de vraiment très terre à terre, là, des questions de quantité, des questions mathématiques quand il s'agit d'immigration? Et encore plus, pour vous dire une chose que je n'ai pas dite à Frédéric Bérard, c'est que ces gens-là qui passent à Roxham court-circuitent d'autres personnes qui ont fait la démarche en bonne et due forme pour venir s'installer
ça, c'est pas vrai,
au
ça.
Québec. Ah non? Bon,
non, c'est pas
vrai, on en reparlera. Alors, mais dites-moi, Frédéric Lapointe, vous.
Il y a plusieurs choses. Je pense que c'est dans notre intérêt national que d'être capable de fixer nos limites, comme dans la vie individuelle de tout un chacun, il est sain d'être capable de fixer nos limites. Et donc, d'en discuter, et d'en discuter autant que possible sereinement.
Là, vous parlez du Québec, là.
Oui, du Québec et du Canada. Mais ça, le Canada, à la limite, moi, c'est moins mon problème. C'est 20% mon problème, mais ils pourront gérer leurs affaires comme ils l'entendent. Nous, on doit être capable de gérer les nôtres. Et pour pouvoir les gérer, il faut être capable d'en discuter et de discuter des limites autant que possible, le faire sereinement. Je ne constate pas beaucoup de sérénité en ce moment. Je n'ai pas de problème à ce que les gens soient généreux et à ce qu'ils fassent des appels à plus d'humanité ou à ce qu'on fixe des cibles d'accueil plus grandes. Je vous dirais, moi-même, au cours de la dernière année, j'ai sillonné les rues de Montréal avec un camion à trouver des meubles, puis à fournir des meubles à des réfugiés qui arrivaient du chemin Roxham. Il y a des fins de semaine passées à faire ça. En 2016, j'accueillais chez moi...
Ameublement à la pointe, ma foi.
Chez moi, en 2016, j'accueillais des réfugiés syriens là, parmi les 25 000.
Ça t'honore.
Mais ceci n'empêche pas...
Mais justement, parlons de Roxham.
Mais ceci n'empêche pas qu'on puisse discuter après ça à la fois des limites aux réfugiés et à la fois de la géopolitique de l'affaire. Parce qu'on ne peut pas penser que dans les rapports entre le Québec et le Canada, il n'y a pas des arrière-pensées, il n'y a pas des... Et je vous dirais que si c'était... Je vous dirais que si c'était le Manitoba, je pense que le gouvernement fédéral se serait démené pour régler le problème sur un autre rythme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le gouvernement fédéral, puis je prends l'exemple de mes Syriens haïtiens, parce que je l'ai senti de proche, ils étaient chez moi pendant 3 semaines. Le gouvernement fédéral, les Syriens, ça a fait l'objet d'un plan.
C'est des drôles de choses, des fois, mais vous voulez dire que vous avez senti ce qui se passait.
Oui, parce qu'on était dans leur dossier, qu'est-ce que vous voulez? On vit ensemble.
Bien sûr.
Voilà. Les Syriens, ils ont
rien
été...
Rien d'olfactif, là.
Les 25 000, là, on a découvert toutes sortes de choses, c'était très agréable. On fera peut-être une émission là-dessus.
J'ai essayé de vous aider, mais vous aidez pas beaucoup.
Un scoop comme ça, c'était des frères musulmans, puis moi, je suis islamophile, puis c'était des vrais rebelles syriens. On a eu beaucoup de plaisir en 3 semaines à parler du conflit, de la guerre civile. Enfin, plaisir, c'est relatif.
Ma foi.
Donc, ces gens-là ont été, les 25 000 Syriens que le Canada a accueillis, ont été accueillis à Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, mais répartis dans le Canada suivant un plan qui a été établi d'avance avec des listes. Et c'était pas un scandale que de faire ça.
Mais
et quand
c'est
le gouvernement
ça, Frédéric Bérard?
Fédéral l'a fait, ça n'a pas été un scandale. Ceux que j'ai reçus voulaient aller à Toronto, comprenez-vous? Mmh. Mais on leur a dit non. C'est pas prévu que vous alliez à Toronto, vous allez vous installer à Montréal. Il n'y avait pas de place à Montréal, il y a un bout de chez nous, là, je passe l'anecdote. Ils ont été réorientés par la suite à Fredericton. J'étais un peu triste pour eux.
Là, ils ont fait d'autobus
pour vrai. Ben oui, mm-hmm. Ils pensaient que Fredericton, c'était très bien. Ils connaissaient quelques Syriens là. Au bout d'un an et demi, ils se sont tannés. Fredericton, je les comprends. Et ils ont fini par réussir à se rendre à Toronto. Mais dans tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui s'est levé pour dire le gouvernement fédéral devrait pas organiser la vie des réfugiés de la sorte. Et je vous soumets ceci, puis je pense que c'est extrêmement important pour la suite du débat.
En 10 secondes.
Pourquoi est-ce qu'on tombe sur la tomate de Jean-François Lisée ou d'un autre quand le Québec cherche à aborder ces sujets-là, alors que quand le fédéral agit, on tombe pas sur leur tomate? Moi, je pense qu'il y a encore des choses qu'on reconnaît pas à la nation québécoise comme faisant partie de ses outils. C'est comme si gérer les réfugiés, c'est un pouvoir régalien exclusif du gouvernement fédéral et que c'est un scandale quand des représentants de la nation, des nationalistes québécois abordent ce sujet-là. Le tabou que les nationalistes québécois ne peuvent pas parler de ça, alors que le fédéral peut agir dans un sens et dans l'autre, puis ça fait l'objet d'aucun débat. J'accepte
bon,
pas.
Bon, votre adresse à la nation prend une pause pour le moment. C'est... Peut-être aussi que c'est parce qu'il y a ce préjugé de racisme et d'intolérance à l'endroit des Québécois qui est très, très inscrit dans la culture d'un certain Canada. Mais Jean-François Lisée, vous avez sans doute plusieurs réactions à ce que vous venez d'entendre, surtout de Frédéric Bérard, j'imagine. Et je vous pose la question à vous. La ministre Fréchette, cette semaine, ou il y a quelques jours, disait « Il faut profiter du passage de Joe Biden à Ottawa pour régler la question du chemin Roxham ». Évidemment, ça ne se réglera pas comme ça, c'est bien entendu. Néanmoins, est-ce que ce discours est porteur, selon vous?
Ben, je pense que Mme Fréchette, que je connais bien, que j'ai travaillé avec elle dans le passé, fait son travail de dire « Écoutez, le gouvernement fédéral devrait prendre sa responsabilité. Ils avaient l'espoir, ça fait 5 ans
qui disent qu'ils négocient avec les États-Unis, effectivement, ça a été plus court de faire l'entente sur la nouvelle ALENA que de faire ça. Et de toute façon, ils n'avaient pas besoin de négocier avec les Américains. Ils pouvaient juste suspendre l'entente ou, m'a dit un juriste cette semaine, ils pouvaient modifier la loi fédérale sur l'immigration pour dire que l'entente s'appliquait à Roxham, ce qui fait que tout le monde serait venu à la colle et que là, il y en aurait pris un sur deux. Alors, le refus du fédéral d'utiliser les outils à sa disposition oblige le Québec, Mme Fréchette, de dire, ben là, faites quelque chose. Et en plus, parlant d'humanisme, puis je suis absolument d'accord avec ce que dit Frédéric Bérard sur le discours victimaire sur les réfugiés, etc., comme je l'écris dans le Devoir ce matin, à leur place, je ferais exactement la même chose si j'étais dans leur situation. Et ce que je trouve épouvantable, c'est que nous, on avait fait pression quand j'étais chef de l'opposition, quand ça commençait, pour qu'ils aient des permis de travail le plus rapidement possible. C'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens qui sont débrouillards. Écoutez, ils sont venus ici, c'est parmi les plus débrouillards, résilients, courageux, braves de la planète. Alors, évidemment qu'ils veulent travailler. À l'époque, on avait réussi à réduire à 3 mois l'émission du permis de travail. Maintenant, c'est rendu 1 an. Je veux dire, c'est épouvantable. C'est fédéral. C'est fédéral. C'est pas québécois, OK? Alors, donc, ça, première chose. Donc, deuxième chose, elle fait ce qu'elle peut, mais il y a un moment où une action sera nécessaire. Bon, alors, moi, je suis en mode solution. Cette semaine, je débattais avec Tom Mulcair, qui disait, moi, ta solution, je l'aime pas parce que ça ressemble à DeSantis. Ah, OK, c'est un problème. Je comprends le problème. Mais quand j'ai dit ça, j'ai dit, je le sais que les gens vont comparer avec DeSantis, c'est un problème, mais comment le faire? Alors, lui, il dit, peut-être que ce serait mieux de demander au point d'entrée si vous préférez aller en Ontario, puis à ce moment-là, ils vont aller en Ontario. Ben, ça serait mieux. Ça serait déjà ça. Alors, on peut quand même demander au fédéral, ben, pouvez-vous au moins, ceux qui veulent aller en Ontario, ou s'il y en a qui veulent aller à Fredericton, le faire? Mais s'ils ne le font pas, le fédéral, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le faire à leur place? T'sais, c'est ça la difficulté.
On vous entend bien, Jean-François.
Trouver une façon de forcer le fédéral à faire quelque chose.
Bien sûr. Je vais essayer de passer par Mulcair pour rejoindre Bérard, Frédéric Bérard, là-dessus.
Qu'est-ce que j'ai à voir avec
Mulcair? Parce que vous m'avez toujours pas répondu sur le fond. C'est-à-dire, est-ce que on peut demander...
Vous n'aimez pas ma réponse, c'est pas pareil.
Si on peut demander à Ottawa ou faire en sorte, d'une façon ou d'une autre,
ben non,
Ottawa répartisse un peu mieux tout de même ce flux.
C'est un peu ce que j'allais dire.
Parce qu'on le sait, il y a plein d'organisations c'est communautaires peu, qui croulent sous les responsabilités.
Oui, non, mais ça, il y a
pas de logement. Bon, vous dites que c'est partout pareil, mais quand même, en Ontario, ça bâtit.
Bon, premièrement, sur les organismes, moi, j'ai de l'empathie pour eux, parce qu'effectivement, premièrement, quand tu vas travailler dans un organisme comme celui-là, c'est que tu as le cœur sur la main, puis tu es Mère Teresa, puis tu veux faire de ton mieux, de toute évidence, il y a des problèmes de financement parce qu'il y a nécessairement une surcharge. Ça, c'est évident. Quand Jean-François parle d'une solution à la place du fédéral, en lieu et place du fédéral, je salue...
Ou pour forcer le fédéral.
Je salue son initiative, pas celle qu'il a invoquée des autobus, parce que je trouve que l'image est beaucoup trop forte, mais je comprends très bien ce qu'il veut dire. Le problème, c'est que constitutionnellement parlant, le fédéral a pleine autorité en la matière, ce qui nous amène peut-être à cet enjeu-là, si on considère qu'il y a un enjeu. Et pour le reste, je finirai avec ceci... Puis c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus tout à l'heure, puis je termine, promis, Nick, là, ça sera pas très long. Cette espèce de paradigme d'ouverture et d'humanisme, on l'a eu pendant longtemps, notamment, le meilleur gouvernement qu'on a eu à cet effet-là, à mon sens, c'est le gouvernement de René Lévesque. Hein, quand il y a eu les vagues de réfugiés haïtiens qui sont arrivés ici, Lévesque les a accueillis à bras ouverts. Ça, c'est un. Deux, les réfugiés, les boat people vietnamiens, si vous vous rappelez de ça, là.
Absolument.
Il y avait le gouvernement fédéral qui voulait pas trop, puis qui tirait sur son bord de la couverture, puis savait pas, puis blibli, puis blabla. Et Lévesque a dit à Godin, on les accueille, ça finit là, puis le fédéral s'arrangera avec ça. Puis aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des autrices internationales comme Kim Thuy, qui était une petite fille de 7-8 ans à l'époque.
Bien sûr,
ce bateau-là. Alors,
mais c'était pas 40 000 personnes.
Je veux pas jouer avec le lard moyen. Tout ce que j'essaie de dire. Non, mais c'est parce que c'est important peut-être de se rappeler qu'à la base, quand on parle de réfugiés, on parle de gens qui fichent le camp parce qu'ils fuient la persécution, ils fuient la guerre, fuient la famine ou autre. Il faudrait s'en rappeler, ça. Et les Québécois, à mon sens, sont un peuple clairement généreux. Le problème, c'est que depuis quelques années, peut-être, ça s'est étiolé comme ça s'est étiolé un peu partout en Occident, du fait d'un discours qui soit méprisant envers ces mêmes réfugiés.
Mais peut-être aussi que c'est parce que la réalité des mouvements migratoires à travers le monde a changé depuis les années 70.
Ben,
c'est depuis René Lévesque qui, par ailleurs, disait des choses qui, aujourd'hui, le verraient canceller Manu Militari. Hein,
qui ça?
René Lévesque.
Ben, je suis désolé
parce que... trop, ça existe.
Ben, je suis désolé, mais parce qu'avec les propos que Jean-François a tenus, il y a 15 ans, Radio-Canada, je ne suis pas certain, moi, qu'il n'aurait pas été annulé, justement.
Ah, ben là, de nos jours, Radio-Canada, on peut se faire annuler pour moins que ça. Jean-François Lisée, je passe la parole brièvement à Frédéric Lapointe qui tripping, puis ensuite, on termine avec vous.
Mais trop, ça existe. En ce moment, la question des réfugiés est une question parmi plusieurs. En ce moment, au Québec, la population augmente rapidement. Il y a des bienfaits à ça. Hein, on dilue notre dette, on comble nos emplois, on crée d'autres pénuries. Hein, il y a des ajustements à faire. On a des problèmes de logement, tout ça. Mais il y a des bons côtés à l'affaire. Mais on ne peut pas ignorer non plus le fait que ça entraîne une transformation rapide de notre société. Il y a plus de gens cette année qui arrivent au Québec qu'il n'y a de naissance. Donc, il y a tout un aménagement de ce que est la nation également. Il y a de l'intégration à faire. Il y a des discours qu'il faut tenir. Et parmi les discours qui se tiennent, oui, il y a des gens qui questionnent le volume de l'immigration, le volume des réfugiés. Mais il y a aussi dans le paysage des discours anti-québécois qui se tiennent en Ontario, qui se tiennent au Québec. Et dans un contexte où on ne contrôle pas nos frontières, où nous ne sommes pas responsables de l'accueil de tous ces gens et où il y a des discours anti-québécois qui se tiennent, où il y a des pressions politiques, de la géopolitique qui se joue, on ne peut pas dire simplement aux Québécois, bien, occupez-vous pas de ça, c'est pas de vos affaires, puis il va y avoir des changements climatiques. Non, il faut s'occuper de nos affaires, il faut être stratégique, il faut doser les choses. On a un intérêt national à préserver. Puis on a eu l'ambition au cours des dernières siècle de contrôler notre destin, pas d'être victime des événements. Donc, parfois, il faut poser des gestes qui peuvent être dérangeants, mais il faut prendre le contrôle.
Là, on ouvre tranquillement la porte vers un débat qui pourrait prendre une ou deux émissions sur l'immigration, la perception qu'on en a, la façon de gérer tout ça. Jean-François Lisée, avant de vous laisser aller, voulez-vous ajouter quelque chose sur Oxfam?
Je vais simplement dire, puis je suis content que Frédéric Bérard ait parlé de René Lévesque, ce n'est jamais la faute des immigrants et des réfugiés. Eux, ils satisfont aux conditions que la société d'accueil pose. Si on ouvre une brèche, puis on la laisse ouverte, ils vont la prendre, et ils ont raison de la prendre. C'est jamais la faute des immigrants. Okay? Et les immigrants travaillent, puis ils travaillent fort, puis ils sont parfois surdiplômés pour le travail qu'ils ont. Alors, moi, jamais je jette l'opprobre sur les immigrants. Jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, je dis, une fois qu'ils sont entrés, il faut tout faire pour les intégrer le plus vite possible. Okay? Bon, maintenant, la difficulté, c'est le nombre. M. Lévesque n'a pas pris 40 000 réfugiés par année. Et lorsqu'il trouvait qu'il y avait trop d'immigrants, il parlait de la noyade des Québécois organisée par le fédéral. Donc, il était très soucieux du nombre. Il y a, comme dit Frédéric Lapointe, trop, ça existe. Et en ce moment, c'est trop. 40 000 demandeurs d'asile, 180 000 travailleurs temporaires, ouais, dont beaucoup d'unilingues anglophones, plus les 50 000, c'est trop. Alors, à un moment donné, c'est pas leur faute. Eux, ils vont venir. Tant qu'on leur dit de venir, ils vont venir, bien sûr. On est un des meilleurs endroits au monde. Mais c'est notre faute à nous, et dans ce cas-ci du fédéral, de ne pas correctement gérer une frontière. Ça se gère.
Je voulais vous demander, Jean-François Lisée, en terminant, avez-vous des nouvelles de cette prof dont vous parliez la semaine précédente dans Le Devoir qui enseignait le cours ECR et qui expliquait à ses élèves que le Québec est l'endroit le moins accueillant et le plus raciste au Canada?
Oui.
Moi, je suis fasciné par le fait qu'on n'ait pas plus entendu parler que ça de cette histoire-là. C'est-à-dire que ça pose des questions au-delà de ce qu'on peut penser du cours ECR et des préjugés qui circulent sur le Québec. Ça pose la question de la qualité de l'enseignement aussi.
Écoutez, non, ben il y a une très bonne chronique de mon collègue Normand Baillargeon dans Le Devoir de ce matin à ce sujet-là. Mais ensuite, j'ai vérifié quel était le matériel pédagogique que les profs comme elle ont à leur disposition pour donner ce cours. Et j'ai communiqué avec quelqu'un que je connais qui donne le cours et qui dit « Nous n'en avons pas. Nous inventons le cours, chacun de notre côté. » Alors, c'est extraordinairement dangereux de demander à des profs de secondaire 5 qui ne sont pas des spécialistes du racisme
d'inventer un cours sur le racisme sans matériel pédagogique. Puis c'est pour ça que je ne la blâme pas, cette femme-là.
Elle vous êtes bien magnanime, quand même. Moi, je... Oui.
Nick la blâme, lui.
Oui, moi, oui, absolument. Oui. Mais gênez-vous pas, au moins, vous n'aurez pas été le méchant tout le long de cette entretien.
Chacun son tour.
Mais pardon, on vous a coupé. Allez-y.
Ben, c'est tout. Alors, ah, donc, oui. moi, ce que j'espère, c'est que en attendant que le nouveau cours arrive l'an prochain, et pour le nouveau cours, que un matériel pédagogique équilibré, intéressant, fondé sur les faits, soit offert aux profs pour qu'ils ne soient pas à la merci d'un préjugé ou de fausses informations, tout simplement.
Alors, dossier à suivre. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. Vous écrivez dans Le Devoir. Vous êtes aussi, j'allais dire, dans la boîte à Lisée. Hein? C'est là qu'on peut trouver toutes sortes de trucs très intéressants que vous produisez, que vous réalisez, que vous écrivez, que vous enregistrez. Merci beaucoup, Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois. Et à une prochaine.
Merci, Nick. Merci.
Salut.
Les deux.
Plaisir.
Chers auditeurs, dans un instant, nous continuons la discussion sur l'actualité. À tout de suite. Alors voilà, nous continuons notre revue de l'actualité politique. On parlait hors micro du fait que nous venons de parler pendant une demi-heure d'un sujet, ce qui a permis notamment à Frédéric Bérard d'abord de faire les remontrances qu'il voulait faire à Jean-François Lisée sur la forme, mais ensuite qu'on discute aussi du fond. Et si vous avez juste 10 minutes, ben, vous restez parfois dans les remontrances ou juste dans la forme et les gens se parlent moins. Alors on se félicite d'avoir du temps pour parler ici. Merci à ceux qui nous en donnent la capacité, c'est assez extraordinaire. Continuons sur l'actualité, puis on va rester un petit peu, Frédéric Lapointe, dans le même sujet. Alors il faut que je regarde mes notes parce que je ne me souviens pas du nom de la personne impliquée. Alors, c'est Mme El Gawabi,
oui. Hein,
qui est nommée porte-parole, conseillère, experte et représentante dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse. Mm-hmm. Elle est elle-même musulmane, si on comprend bien. Elle porte un voile strict, c'est-à-dire celui qui couvre le cou et les cheveux. Elle a déjà écrit, c'est la presse qui nous révélait ça cette semaine, pour ceux qui ne s'en souvenaient plus, en réaction à une opinion émise par un anglophone, hein, Joseph Heath, un professeur de philosophie de l'Université de Toronto. Ce professeur avait dit que les Canadiens français avaient été le plus grand groupe au Canada à avoir subi le colonialisme britannique. Et Mme El Gawabi avait réagi sur Twitter en disant « Je vais vomir ». Et puis, elle a également commis ce texte dans un média anglophone où elle expliquait que les Québécois qui appuyaient la loi 21, les Québécois majoritairement, disait-elle, étaient habités d'un sentiment anti-musulman. Ce qui fait que tout le monde... Il y a eu une sorte de tollé cette semaine. Comment se fait-il, d'après vous, que Justin Trudeau, qui nomme cette personne en principe pour... construire des ponts, essayer d'améliorer les choses dans les relations entre diverses communautés, elle choisit cette personne-là.
Mais d'abord, paraît-il que c'est une journaliste et militante spécialisée dans les droits humains. Alors, je ne connais pas sa carrière, là, mais je présume qu'en dehors des extraits là, qu'on peut sélectionner, qu'elle a une action là, qui justifie sa nomination. Par ailleurs, moi, qu'on nomme une musulmane à un poste de prévention ou de promotion, non pas de l'islam, là, mais de la prévention de l'islamophobie.
Pour préciser, oui, elle était au Conseil national des musulmans canadiens. Elle a aussi été à la Fondation canadienne des relations raciales.
Oui.
On fait beaucoup le lien ici entre race et religion, ce qui est le propre d'un...
Ben, c'est un positionnement que...
école qu'on appelle le wokisme, pour réveiller Frédéric Bérard.
C'est un positionnement que se sont donné les courants de défense des musulmans. Puis,
D'autres minorités.
Et d'autres minorités. Quand on dit que des Grecs du Liban sont des minorités visibles, je sursaute toujours un peu, mais ça, ils font leur choix, là, puis c'est c'est correct. Mais dans le cas qui nous occupe, ce que je veux pointer du doigt pour nos auditeurs, c'est pas en soi le fait qu'on ait une autre personne qui est peut-être au Canada depuis 14 générations ou deux ou une, je ne sais pas. Ça fait pas tellement de différence finalement parce que qu'ils aient des attitudes un peu primaires, superficielles, négatives à notre endroit, ça fait quelques siècles. Hein, on est un peu habitué. De ça, on peut le déplorer, là. Puis on peut prendre des décisions politiques en conséquence. Mais on est assez habitué de ça. Ce que je veux pointer du doigt, c'est que madame a aussi plaidé pour l'abolition de la fête du Canada, hein, du 1er juillet.
Ma foi, oui.
Parce que cette fête serait trop la consécration ou la célébration du colonialisme britannique et autrement de la présence des Européens au Canada. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est parce que ce n'est pas si banal que ça au Canada, c'est pas si épisodique. Il y a une telle chose qu'un courant chez des néo-Canadiens qui cherche à battre en brèche à peu près tout symbole qui touche ce qu'on pourrait appeler des archéo-Canadiens ou des anciens Canadiens dont nous sommes. Hein. Il n'y a pas juste des Britanniques qui sont arrivés de façon moins ancienne que nous, dont nous sommes. Et donc, il y a manifestement dans tout ce courant, une velléité politique d'affirmation par le vandalisme de notre histoire, de nos symboles. Et là, vous me surprenez à défendre la fête du Canada. Vous pouvez mettre une croix dans le calendrier.
Moi, ça? Mais la fête du Canada... j'allais dire que j'étais bien d'accord avec elle.
C'est ça.
Bon, j'ai pas les mêmes raisons.
Je pense qu'il faut être particulièrement inculte et manquer de considération pour dire que la fête...
La fête de
l'indépendance du Canada vis-à-vis la puissance coloniale britannique, d'abord, ce serait célébrer le colonialisme britannique. Il faut l'étirer pas mal, celle-là. Et d'autre part, dire ouvertement que vous trouvez que le Canada est trop européen et qu'il faut venir à bout des symboles européens, on frôle, il me semble, le discours haineux à l'endroit de la majorité des habitants du Canada. Alors, pour toutes ces raisons, non pas la détestation épisodique et maladroite des Québécois, mais pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être extrêmement...
Y aurait-il une détestation à droite?
Moi, je ne sais pas. Il y en a des mieux organisés, il y en a des plus subtils. Mais pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être extrêmement inquiet de la dérive du gouvernement fédéral et du Parti libéral du Canada, non pas en tant que souverainiste, mais simplement en tant que Canadien.
Frédéric Bérard, êtes-vous d'accord avec le malaise que soulève cette nomination? Alors là, madame, ça y est, j'ai encore oublié son nom, El Gawabi, dis-je bien. Oui, c'est bien ça, El Gawabi. C'est amendé, c'est excusé. Elle a dit non, je ne pense pas ça des Québécois. Rappelons que lorsqu'elle avait écrit ce texte ou signé ce texte dans un journal à Ottawa, je crois, pour dire que les Québécois étaient islamophobes ou racistes ou intolérants envers les musulmans, quelque chose comme ça, là, c'était parce qu'elle se fondait sur un sondage dans lequel près de 90% des Québécois se disaient éprouver un malaise face à l'islam. Hein? C'était quelque chose comme ça. Là. C'était pas
ce qui est habituellement haine. De l'islamophobie. Là.
Ce que plusieurs appellent l'islamophobie, comme si c'était une maladie mentale, mais on ne fera pas le débat là-dessus.
Non.
Mais on pourrait lui répondre que si on faisait le même sondage pour parler de diverses autres religions, au Québec, on n'est pas le royaume de l'amour des religions non plus. Hein?
Est-ce que j'ai une remontrance pour vous, là, c'est à votre tour. Est-ce que les Québécois sont victimes de racisme au Canada? Est-ce que les francophones sont victimes de racisme au Canada, Nick Payne?
Moi, la race, je n'intègre pas ça dans mon discours.
OK, d'accord.
Alors, est-ce que comme groupe culturel, ils sont regardés de haut, assurément?
C'est qu'au-delà du wokisme, les définitions de racisme telles que définies maintenant par le sociologie, c'est que oui, évidemment, il y a un volet biologique, par exemple, la couleur, mais il y a aussi un volet culturel, ce qui peut inclure notamment la langue et la religion.
Oui, c'est une certaine sociologie, on va dire.
Non, mais c'est pas une sociologie woke, là, c'est ce que j'essaie de dire. Là.
Pour moi, ça reste les couleurs de peau, la morphologie, les origines ethniques, à la rigueur,
oui, mais
une religion.
Ou
une culture.
Le racisme culturel est maintenant reconnu, et je ne parle pas de 3-4 pelés et tondus à Concordia, je parle de la sociologie telle qu'elle existe de manière générale.
Il y a beaucoup celle de pelés et de tondus comme ça.
Parlez-moi
de Mme El Gawabi.
Oui, avec plaisir. Alors, moi, j'aurais nommé Sophie Durocher, moi, la lutte contre l'islamophobie. Avoir une chance.
Décidément.
Non, mais écoutez, là, est-ce que j'essaie...
Vous êtes terrible aujourd'hui.
Oui, mais...
Moi, j'aime beaucoup Sophie Durocher.
Je suis en forme, mais vous avez le droit. ce que j'essaie de dire,
non, mais
avec
parce
ça...
que c'est quelqu'un qui se tient debout.
Déjà. Oh là là là, OK, bon.
Mais comme vous, vous vous tenez debout, vous aussi, ouais, là, vous êtes assis, là, mais...
Ben oui, ben c'est justement ce que j'allais dire, mais en tout cas, bref. Mais vous avez le droit, puis Sophie, je l'aime bien aussi à certains niveaux, mais sur la question d'islamophobie, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, peu importe. Est-ce que Mme Truc, j'ai oublié son nom, est une bonne nomination? Non. Est-ce qu'elle a exagéré? Évidemment. Est-ce que de mettre tous les Québécois dans le même panier, c'est imbécile? Clairement, oui. Et de ce fait-là, est-ce que c'est un peu de la provocation Trudeau? C'est clair. Faut qu'on ait dit ça, par contre, il y a un son. Et je répète, hein, je n'ai jamais dit et ni pensé que les Québécois sont racistes ou xénophobes ou islamophobes. Excusez, je n'ai jamais dit ça, je veux le repréciser. Par contre, vous avez parlé d'un sondage, c'est une chose, mais il y avait une étude scientifique qui démontrait que 32 % des Québécois, si je ne fais pas erreur, mettraient fin ipso facto à l'immigration musulmane. Évidemment, ça s'inscrivait dans un contexte, celui de l'adoption de la loi 21, après le débat sur la Charte des valeurs.
Si celui-ci un contexte de traumatisme à travers l'Occident.
Mais là, on est quand même rendu en 2017.
Manifestation de terrorisme.
On est quand même rendu en 2017, là, ce que je vous raconte.
Faut pas oublier ça, là.
Non, non, mais on est... Oui, mais justement, est-ce que les terroristes...
Parce que sur ceci, le même sondage en France...
Est-ce que les musulmans sont terroristes parce qu'il y a eu des terroristes musulmans? Non. Est-ce que les catholiques... Bon, ben c'est ça. Parce qu'il faudrait se le rappeler aussi. Puis quand il y a des attentats aux guns aux États-Unis à toutes les 10 minutes, on est rendu à 650 cette année.
Non,
je pense qu'il
n'y
a personne qui dit
contexte,
que les chrétiens sont des terroristes.
Donc, je fais la mise en contexte avec vous.
Je suis d'accord avec vous. Je ne m'adresse pas tant à vous que
c'est
ceux
sûr que si on parlait
font...
des bouddhistes...
Non, mais je comprends. Mais c'est un peu ça le problème avec l'islamophobie, justement. C'est que les gens font une adéquation. Ils voient à la caméra, ils voient à la télé, pardon, oh pouf, il y a un attentat terroriste. Ah ben regardons ça, c'est des musulmans. Donc par définition, les musulmans sont dangereux. Mm-hmm. On ne fait jamais le même genre d'adéquation lorsqu'il est question de nous, entre guillemets, là, au sens très large. Donc, bref, est-ce qu'il y a eu un problème d'islamophobie au Québec? Moi, c'est drôle, hein? Je trouve que ça s'estompe, ce problème-là, de manière fantastique depuis que les woke ont pris toute la place dans certains médias qu'on ne nommera pas. Et depuis ce temps-là, c'est drôle, on ne parle plus des musulmans. Il n'y a plus de problème avec les musulmans au Québec depuis qu'on s'excite parce que les chocolats M&M sont devenus lesbiennes. Le fils de Superman est rendu bisexuel.
On est passé à notre appel. Hein,
la ouais. patate en plastique de Gugus Truc ouais. n'a plus de bisounes et ainsi de suite.
J'ai eu un instant la difficulté
la
à saisir à quel degré vous étiez dans votre ironie, mais...
L'avez-vous saisi, hein?
Mais il faut... Oui, oui, non, okay. mais parce qu'on pourrait y voir des degrés d'ironie, mais il faut dire aussi, certains vous répondraient qu'au contraire, ce discours qui consiste à quand même beaucoup insister encore sur les phobies de toutes sortes, hein, pas seulement...
Oui, je comprends, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas moins de...
Stimule la droite et l'extrême droite.
Juste pour finir là-dessus, Nick, il n'y a pas moins de musulmans qu'il y en avait il y a 5 ans. Or, on n'en parle plus des musulmans au Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de problème avec les musulmans au
mais
Québec.
Mais est-ce qu'on a déjà parlé des musulmans? Hein,
la grande mosquée iranique, arrêtez de niaiser.
Il faut être clair. Il y a une loi 21, pourquoi? Il y a une loi 21 parce que...
On a parlé de fondamentalisme, on a parlé...
La grande mosquée, l'attentat de Bissonnette, les jokes de part avec Éric Duhaime, tout le discours, la publicité du Bloc québécois où le truc de pétrole se déversait en niqab.
Devenait une burqa.
Une burqa, niqab, en fait.
C'était une adresse folle.
Non, il faut arrêter de niaiser.
Oui, oui, mais...
Non, mais s'il y a une loi 21, il faut se le dire, là, c'est pas parce qu'il y avait deux, trois sikhs qui voulaient se promener avec un poignard en dessous de leur...
Pas des juifs non plus.
C'est pas, les pas pour les kirpans.
C'est le phénomène au Québec, c'était, oui, il y a eu une vague d'immigration importante provenant du Maghreb.
Par l'islam, par un certain islam. Oui.
Deux types de gens du Maghreb. Il est arrivé des gens qui étaient plus religieux, plus conservateurs, puis qui pouvaient aller enseigner dans les écoles parce qu'ils avaient les diplômes. Puis il est arrivé des gens de la même Algérie, du même Maroc, qui fuyaient un peu ça puis qui n'étaient pas d'accord pour que le Québec fasse un peu prenne un peu le même chemin que ces pays-là. Donc, c'est un phénomène qui a duré pendant quelques années au Québec, qui a entraîné des débats qui nous sont venus d'ailleurs des immigrants. Hein? C'est eux d'abord qui ont levé la main pour dire attention, le voile, ça veut dire autre chose.
Commission Bouchard-Taylor, j'ai pas vu beaucoup d'immigrants interdire le voile.
Avant la commission, il y en a eu. Je les ai eu dans mes classes à l'Université de Montréal également. Puis dans le débat public, ça a été porté par des immigrants d'abord, des gens qui ne sont pas nés ici. Parce qu'ils sont d'accord avec la majorité. On a tendance à les invisibiliser tant que minorité. Puis en tant que minorité,
j'ai vu nulle part. Moi, je me souviens, je ne sais pas qui est Jamila Benhabib, en fait. Effectivement,
ben oui.
J'ai aucune espèce d'idée.
Donc, Jamila Benhabib, c'est une minorité visible. Ce serait une minorité visible.
Non, mais là,
ce débat-là
n'est pas un débat. Quand c'est arrivé, ça n'a pas d'abord été un débat de majorité contre minorité. Oui, ça a été un débat sur le voile, sur sa signification. Et c'est vrai que s'il y a une loi 21, c'est en raison de la présence du voile dans les écoles.
Pour compléter là-dessus, c'est important. Hérouville, à ce que je sache, là, c'est pas c'est pas une ville de musulmans au Québec. Hein. C'est une ville de Québécois francophones bien blancs et plutôt catho. Et ce sont eux qui ont parti ce débat-là parfaitement farfelu avec André Drouin, l'espèce de conseiller fêlé qui disait qu'il y avait la dilapidation de la femme à Laval. Puis des trucs genre, on l'invitait, tout le monde en parle. Et puis Baston s'est ramassé avec la commission.
Là, vous avez dit la dilapidation.
Mais c'est pas moi qui l'a dit, c'est André Drouin.
Oui,
c'était
lui,
ça,
dit la lapidation.
Non, lui, il a dit la dilapidation.
Ah, il avait dit
c'est justement ça le gag.
Pardon.
Là, il faut que j'explique toutes mes blagues aujourd'hui.
Ça marche pas, votre affaire. Mais
oui, mais on dévie. Bon, Frédéric Bérard, on espère qu'on va se comprendre qu'en Occident, les problèmes, la problématique de la perception de l'islam n'est pas arrivée à travers Hérouville. Hein?
Non.
C'est même
non,
à travers le monde. Là,
non,
bon.
Mais vous avez Trump qui avait fait adopter aussi un Muslim ban, hein, qui voulait même d'ailleurs ficher les musulmans aux États-Unis. Vous vous rappellerez de ça. Le mouvement anti-islam a été fort un peu partout en Occident, on s'entend bien. Et le Québec a embarqué dans l'autobus, bien, malgré lui ou peu importe de par
mais je vous soumets que, c'est pas qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec, là, mais je vous soumets que sans la caution et sans la question de l'égalité homme-femme, parce que les accommodements raisonnables, le débat sur les accommodements raisonnables au Québec n'a pas commencé avec Hérouville. Hein, il a commencé avec des gens qui ne voulaient pas recevoir
le YMCA,
des gens qui ne voulaient pas recevoir
leur permis de conduire. Mais ça, ce n'est pas des musulmans, YMCA,
c'était pas ça.
Des juifs.
Exact. Donc, le débat a d'abord pris sur l'égalité homme-femme.
Mais ça, je peux préciser tout de suite. Selon la Commission des droits de la personne, on connaît bien le Big Boss. Regardez les études à chaque année. Il y a entre 4 et 6 demandes d'enquête sur une question d'accommodement religieux au Québec. 4, 5, mettez-les à 7 si vous voulez, là. 7 demandes d'enquête sur des accommodements religieux sur 8 300 000 personnes. Moi, j'appelle ça une simili-anecdote. En d'autres termes, on a grimpé des trucs en épingle qui n'auraient jamais dû se ramasser dans les médias. On est incapable de nous raconter des histoires réelles, même en rapport avec l'égalité
homme-femme. Ça se peut.
Certains vous diraient que ces événements-là témoignaient d'un phénomène sous-jacent qui s'en venait, qui est arrivé et qui signifie plus que ce que vous voulez bien dire, Frédéric Bérard. Mais
c'est-à-dire?
Vaste question. Il faut qu'on finisse sur Mme El-Gawabi.
Oh, ben, est-ce que vous m'attaquez comme ça, vous me dites même pas de quoi. Oh, c'est kafkaesque, cette émission.
Ah oui, ben non, mais allez-y, répondez.
Ben, je ne peux pas répondre, je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Je ne vous attaque pas. Je vous dis, vous dites que ce sont des anecdotes. Bon, on n'aurait jamais dû parler de ça. Enfin, le rapport
Le truc du YMCA, c'est un directeur du YMCA idiot qui a cédé devant un juif assisé qui a fait une demande idiote. C'est tout, ça finit là.
Oui, mais les exemples comme ça se sont multipliés jusqu'à plus soir. Je n'ai pas fait le répertoire.
Juste une deuxième.
Toutes sortes d'écoles qui permettaient à toutes sortes de monde d'aller prier ici, de prendre congé là. Ça finissait pas. Il y en avait beaucoup. Mais c'est une question qui se pose.
Je pourrais même pas vous raconter une anecdote. Je veux dire, ça, c'est grimper en épingle.
C'est un débat qu'on a le droit de
faire. Dans les écoles, oui, on a le droit de le faire, mais dans les écoles, ça va bien. Dans les hôpitaux, ça va bien. Il n'y a jamais eu de problème d'accommodement raisonnable au Québec. C'est pas moi qui le dis.
En tout cas,
c'est la commission Bouchard-Taylor. C'est sa première conclusion. Il n'y a jamais eu de problème de crise des accommodements raisonnables au Québec, sauf dans un média, c'est-à-dire Québécois. Allez voir le rapport.
Il y en a beaucoup moins depuis quelques années, d'ailleurs.
Parce que
là, on pourra débattre si le fait qu'il y ait eu une montée en puissance du débat a calmé ou non le jeu. Là, on pourrait être en désaccord. Mais pour venir donc à la nomination de madame...
Êtes-vous en train d'animer l'émission, vous?
Ce qu'on peut craindre, ça peut m'arriver, ce qu'on peut craindre, c'est que toute la discussion sur certaines valeurs comme l'égalité entre les hommes et les femmes puisse ne pas se faire aussi sereinement.
Parce qu'on a un personnage clivant, là.
Si chaque fois qu'on discute de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est perçu dans le prisme de l'islamophobie. Donc là, peut-être qu'au bout de 20 ans, on va avoir réconcilié tout ça, puis on va être retombé sur nos pattes, mais très certainement de donner des positions très, très en vue, hein, c'est une nomination directe du premier ministre, bien, c'est un message envoyé clairement à ceux qui, s'ils ont une approche différente de la tolérance des religions ou de la prépondérance des religions pour défendre certaines valeurs comme l'égalité entre les hommes et les femmes, ben je pense que le débat va reprendre. C'est ça que ça va faire.
Ah, quelle conclusion magnifiquement posée avec hauteur de vue, recul. Changeons de sujet. Le ministre Roberge faisait une sortie en grande pompe hier pour nous parler d'un grand chantier pour la défense du français.
Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi.
Oui, ça suffit. Frédéric Bérard...
On vient d'augmenter le budget, là.
On n'avait pas déjà... Oui, il faut payer des droits là-dessus.
La réalisation et tout.
Et on salue Alain Delon et Dalida, bien sûr. Est-ce que... Dalida, on a une pensée pour elle, plutôt. Hein. Alors, vraiment, vous êtes expert dans les liens aujourd'hui. Alors, levons le voile sur la question du français. Moi aussi, je fais des... des jeux de mots. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que c'est de la mise en marché? Alors, le ministre Roberge explique là, qu'on va consulter, on va faire un comité, on va se poser, on va se demander pendant au moins un an.
On va être convoqué, né?
Jusqu'à une sorte de... Ben non, c'est plutôt vous qui êtes une sorte d'affaire sur la langue à travers le Canada.
C'est pas un an, c'est quelques mois. Son calendrier.
Oui, mais au bout de ça, là, il y a les États généraux, enfin, je ne sais trop, et puis on va se demander comment on pourrait faire pour que tout le monde se remette à parler, à aimer le français.
Et d'ailleurs, le ministre Roberge a trouvé une manière de faire trois fautes hein, dans son, son allocution.
Et c'est un professeur. Mais donc, on fait la loi 96 Frédéric avant, puis dur, on fait là, les mais... consultations après?
On a adopté une loi sur la réforme du français, maintenant consultons. Ça me semble
on a vraiment besoin de tout ce bazar-là pour tout le monde. On peut les amener magasiner au centre-ville, ça va prendre 5 minutes.
Tirons et posons les questions ensuite.
Mais qu'est-ce que c'est, là? Les gens qui seraient tentés par le Parti québécois?
C'est un exercice de relations publiques et qui met en scène, évidemment, Jean-François Roberge, qui est vu comme étant beaucoup plus ouvert, consignant, rassembleur. Moi, je le trouve un peu niais, personnellement, mais versus, par exemple, Jolin Barrette, qui était beaucoup plus défensif, cassant. Donc, on essaie de rétablir une certaine image de discours, disons, un peu progressiste. Et à la base, et vous allez me trouver peut-être un peu naïf, en fait, sans doute vous allez me trouver naïf, mais je ne suis pas en désaccord avec une approche comme celle-là, et je m'explique. À mon avis, on a passé beaucoup trop de temps au Québec à être sur la défensive, à voir, par exemple, là, je reviens encore sur la question des réfugiés, comme étant des passifs en matière linguistique, puis on a des mentalités souvent d'assiégés, alors que si on veut attirer les jeunes vers le français, parce que le défi, il est là, hein, à mon avis, là, on ne parlera pas, malheureusement, des 78 ans et plus, c'est pas mal plus les jeunes qui doivent s'intéresser au français. Et comment on fait ça? Ben moi, si je tire sur une fleur, elle ne va pas pousser plus vite. Il faut que je la cultive, il faut que je donne l'amour, il faut que je donne de l'eau, il faut que je donne du temps et de l'énergie. La langue française, c'est un peu la même chose. Or, à peu près jamais, dans toutes les réformes ou les discussions, on ne parle de la force d'attraction du français, de la beauté du français. Je sais que vous êtes un grand francophile. Elle pourrait passer cette attraction-là, je fais mon Jean-François Roberge, par justement la littérature, par la culture québécoise de manière générale, par le cinéma, par la musique. Est-ce qu'on est encore capable d'être content de ce qu'on fait, d'être fier de ce qu'on fait? Et là, je parle au président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je pense que j'ai un
public assez... Du
mouvement national, pardon. Oui. J'ai confondu...
Ça finit jamais,
je me sens presque mal.
Dites juste monsieur le président.
Monsieur le président. Il y a le veston, d'ailleurs. mais une fois qu'on a dit ça... À mon sens, il y a encore une ouverture chez les jeunes. Puis j'enseigne à l'université, francophone, et je la vois, cette ouverture-là, parce qu'actuellement, dans mes deux cours, on passe à travers des classiques de la littérature française, notamment pas exclusivement, mais très principalement. Et chaque étudiant qui présente un classique, ça a l'air un peu cucu ce que je dis là, mais je suis très sérieux, qui présente cet ouvrage-là, parle à quel point l'ouvrage l'a marqué, parle à quel point il y a une beauté d'âme là-dedans, il y a de l'humanisme. Et bref, on est capable, à mon sens, de renverser le discours et d'amener ces jeunes-là, et quand je dis les jeunes et les moins jeunes, évidemment, à s'intéresser au français et faire progresser la langue.
Alors, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on est capable ou pas de faire ça? Est-ce que la méthode, la volonté de faire aimer la langue peut-elle être dissociée d'une forme ou d'une autre de rapport de force ou de d'incitation à la trouver intéressante aussi par des modèles, par la puissance qu'elle peut... évoquer, par exemple. C'est une vaste question, mais au-delà de ça, qu'est-ce que la CAQ essaie de faire aujourd'hui? Est-ce qu'on ne sait pas déjà tout ce qu'on doit savoir là-dessus? Est-ce qu'il n'est pas plutôt temps d'agir que de faire des comités et des grands messes qui vont mener à quoi? On ne sait toujours pas.
Bien, il y a un demi-constat d'échec hein, dans le fait de devoir relancer ce dossier-là. La CAQ espérait peut-être qu'avec la réforme de la loi 101, il se serait sauvé avec le ballon politique de la défense de la langue et que ce serait fait pour un bout de temps. Ça a un peu terminé en pas en queue de poisson, là, mais disons en demi-succès pour voir le verre à moitié plein. Et donc, il relance le sujet, ce qui, moi, comme président du Mouvement national des Québécois, j'en suis très heureux. Hein? Ils vont nous donner de l'espace dans l'agenda politique, dans l'agenda médiatique. Hein? On va s'en servir.
J'allais manger des sandwichs pas de croûte dans des colloques et des tableaux rondes.
On va faire plus que ça. Oui. Et donc, c'est une première chose. Et la relance du dossier, ça ne l'était pas approprié complètement. La deuxième, est-ce que c'est moi qui ai mal vu, là, mais dans la photo, je ne voyais pas Simon-Jolin Barrette dans le comité.
Non, vous avez vu Bernard Drainville, par exemple. On le voit bien sur la photo.
Je connaissais trop de gens dans cette photo-là, en partant, de toute façon. Mais enfin, M. Jolin Barrette n'y était pas.
Il est sur la voie d'évitement.
Ben, en tout cas, il y a une signification politique.
Ouais.
Il y a une signification politique à ça. Je ne sais pas si les journalistes vont la déterrer, là, mais il y a quelque chose là qui tient peut-être à la forme, comme l'expliquait Frédéric Bérard. Mais fondamentalement, sur la question de la promotion du français et de l'attitude des générations montantes vis-à-vis du français, je pense qu'on a une quadrature du cercle à résoudre. C'est la suivante. C'est pas supposé être facile à faire. Ça ne l'est pas et ça se pose très personnellement à moi dans mon rôle.
De parler en toute connaissance de cause.
Voilà. C'est que d'une part, il faut être vigilant. Il faut pointer du doigt les zones de faiblesse là où on pense qu'un travail a à être fait. On le fait sur le cas du cégep, de l'application de la loi 101 au cégep. D'autres sont aussi très pessimistes en parlant de l'évolution de l'UQAM vis-à-vis Concordia dans la région de Montréal. Et donc, il faut être des lanceurs d'alerte au sujet de la langue pour attirer l'attention du public et l'attention du législateur. Mais on ne peut pas non plus, c'est là où il y a quelque chose à résoudre, dire à tout le monde on est en train de crever et espérer qu'ils vont adhérer à notre culture, aimer notre langue, produire des spectacles en français, produire du contenu sur le web en français, alors qu'on est en train de leur dire que nos actions en bourse sont en train de s'effondrer. On ne peut pas non plus créer un sentiment de panique tel qu'on va perdre la bataille simplement parce qu'on n'a plus le moral de l'amener. Donc, il faut aussi dire quels sont nos succès, aussi dire que, historiquement, on a eu la force de durer, qu'aujourd'hui, au Québec, des gens s'installent, ne connaissent pas le français, mais comprennent instantanément qu'ils doivent l'apprendre. Après ça, ils vont peut-être, dans leur McDo, travailler en anglais parce que tout le monde le font dans la situation. Puis, il faut changer ça. La loi 101 est changée pour ça. Mais il faut aussi montrer le bon côté, montrer nos victoires, afficher un certain optimisme, avoir une attitude de conquérant, ce qui ne signifie pas pour autant ne pas pointer du doigt les endroits où ça va mal, lancer des alertes. Donc là, il y a quelque chose de bien subtil parce qu'à la fin, c'est une question d'adhésion. Donc, on peut avoir des institutions qui fonctionnent en français, puis les gens vont apprendre le latin parce qu'ils veulent travailler en latin à la ville de Montréal. Mais quand on va arriver que le français devient le latin au Québec, on va être très fragile. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on est là pour la durée et qu'ils vont aimer le français parce que le français est incontournable. Donc, il faut déployer aussi de la force, pas juste afficher de la faiblesse.
Frédéric Bérard, c'était l'annonce des grands chantiers cette semaine. Il faut dire que la CAQ se réunissait là et on a entendu toutes sortes de propositions, dont certaines qui vous ont peut-être plu comme environnementaliste. Donc, M. Legault nous annonce qu'il envisage la possibilité de priver les entreprises qui bénéficient des taux préférentiels d'Hydro-Québec. Les entreprises qui n'auraient pas un bon bilan environnemental, finalement, de moduler le tarif en fonction de ça. Il a dit que ça va être difficile pour ces entreprises-là de bénéficier du fameux tarif L, oui. Donc, le pas cher. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était trop peu trop tard ou c'est pas dans la bonne direction?
Moi, malheureusement, je ne crois plus, François Legault.
Il y a Horn aussi, hein? On durcit les... On fait monter la pression sur Horn. On demande de déplacer des maisons, de faire en moins de 5 ans la réduction demandée. Non, ça n'a pas l'air de vous brancher.
Moi, François Legault avait promis en 2019 l'électrification du Québec pour 2030. On en est où là-dessus? Est-ce que j'ai manqué quelque chose?
En 20 secondes.
Oui, je dirais simplement ceci. Moi, je ne les crois plus. Que François Legault arrête de dire qu'il veut faire de l'environnement de sa priorité, qu'il le fasse, et puis qu'après ça,
on verra. Voilà. Donc, que les gestes parlent, dites-vous. Alors, franchement...
Et puis ce que je dis là, ça s'applique à Guilbeault, à Ottawa aussi. Justement.
Bon, oui, il faut le dire. C'est vrai que je sais que vous n'êtes pas un grand admirateur de l'œuvre de M. Guilbeault non plus. Chers auditeurs, Nick Payne qui dit merci aux deux Frédéric, Bérard et Lapointe. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. À samedi prochain, j'espère bien.
Salut!
Chers auditeurs, merci surtout à vous tous d'être si nombreux à l'écoute. C'est très apprécié. À la semaine prochaine.